Chapitre 45. Une route, en pleine campagne. Gabriel s'était arrêté au bord d'un champ à 10 kilomètres d'Orléans. Il vidait ses tripes dans un fossé, anéanti par sa découverte. L'album de David Esquimet contenait la photo d'une marque de naissance en forme de tête de cheval présente sur une cuisse féminine. Comment imaginer qu'il puisse s'agir d'une simple coïncidence ? Aussi incompréhensible que cela puisse paraître, Esquimet avait eu face à lui le cadavre d'une jeune fille disparue à Orléans en 2011, Mathilde Lourmel. Dans une mise en scène macabre, il l'avait installée sur une table en acier et un nouveau cliché avait rejoint son album bourré d'autres horreurs du même acabit. Il se redressa avec difficulté. Il imagina David Esquimet penché au-dessus du corps de Mathilde pour immortaliser une partie de son anatomie. Que faisait son cadavre au milieu de sa collection? L'avait-il ensuite enterré? Incinéré? Il n'osa prolonger ses pensées et se jeta au volant de sa voiture. Bouffé du bitume à fond. Roulé pour ne pas crever d'angoisse, pour se donner un but. Il pensa à Josiane Lourmel, à ses mots implorants, à sa famille et sa vie détruite pour toujours. Plus personne à aimer, aucune croyance, aucune conviction à laquelle s'accrocher. Elle n'avait qu'à attendre un coup de fil qui ne viendrait jamais. Je ne sais pas ce qui est pire, rester prisonnier du passé ou avoir oublié, avait-elle dit. Gabriel ne voulait pas finir comme elle. Tout mais pas ça. Il composa le numéro de Paul malgré les instructions. Tomba sur le répondeur, laissa juste deux mots. « Rappelle-moi. » Aux alentours de 15 heures, l'île lui apparut d'un bloc, telle une vague de béton venue se fracasser sur son pare-brise. Tour commerciale piégée entre des gares, routes tordues engorgées de véhicules, coups de klaxon de tous les côtés. De la région, Gabriel ne connaissait quasiment rien. Sa mère était venue s'échouer dans le nord suite à une mutation de son père, au temps où lui s'était mis en ménage avec Corinne à Saga. Il était censé vivre dans le coin depuis son divorce, mais il ne ressentit à la vue de la capitale des Flandres qu'un grand vide. Quartier de Oisem, explosion de couleurs, enseigne de restaurants chinois, odeur de kebab, petit café entre deux boutiques de vente de téléphones portables ou deux épiceries. Des légumes débordaient des étals d'un marché couvert, un type découpait de la viande à la machette dans un fracas de métal. Les gens s'interpellaient, les moteurs des voitures ronronnaient, crachant un bruit de fond permanent. Gabriel était étranger à ce maelstrom dans lequel les peaux jaunes, grises, noires, blanches se mêlaient, mais il se dit que s'il avait voulu passer inaperçu, il aurait choisi ce genre d'endroit. Il dégota une place de stationnement, sortit avec son sac de sport entre les mains et remonta la rue. Des regards de type en pleine discussion se posèrent sur lui. Une vieille dame avec un cabas hocha le menton en guise de salut. Guidé par son téléphone, Gabriel se sentait agressé, épié. Connaissait-il ces gens? Avait-il déjà parlé avec eux? Toujours sans nouvelles de Paul, il pénétra dans un hall d'immeuble vieillot et introduisit l'une des clés de son trousseau dans la porte. Ça fonctionnait. D'après l'adresse fournie par son ex-collègue, il habitait l'appartement 23. Il inspecta la boîte aux lettres associée et eut un frisson quand il lut « Walter Guffin » sur un rectangle blanc. Dedans, un tas de prospectus qu'il jeta à la poubelle. Il grimpa au premier, arriva devant chez lui avec appréhension. C'était étrange, il avait l'impression de violer l'intimité d'un inconnu. Il glissa une autre clé dans la serrure. Elle s'insérait à la perfection, mais ne tournait pas correctement. Il mit 5 minutes, jouant avec le pen, pour enfin réussir à ouvrir. Quand il découvrit l'intérieur, il comprit mieux ses difficultés. Il avait été cambriolé.